Mais on est là ensemble pour apporter la parole de Dieu. Mais je crois de tout mon cœur que ça va s'adresser à plusieurs d'entre nous ce matin. Ce message de la part de notre Seigneur, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Alléluia. Ça, c'est une certitude. Cette parole, cette phrase, elle est tellement importante, fondamentale pour nos vies, que quand elle est gravée dans nos cœurs, alors plus de place au doute. Plus de place à se laisser déstabiliser par quoi que ce soit, parce que nos yeux, nos regards sont fixés en direction du Seigneur et nous réalisons que Dieu est celui qui fait des exploits. Il les a faits par le passé, il continue de le faire, il va continuer encore de faire des exploits. Alléluia. Et ce qui est merveilleux dans la marche avec le Seigneur, c'est qu'il veut nous rendre participants. Il veut que nous puissions participer à son œuvre. Ce matin, je l'ai entendu au travers de louanges de certains et certaines d'entre vous, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous. Et pourtant, il veut nous utiliser, chacun d'entre nous, dans la sphère qui est la nôtre. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Ces paroles, avec Dieu, nous ferons des exploits. Un chant que l'on chante dans le recueil, dans la présence du Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Et on va voir que ces paroles ont été tirées du psaume 60. Psaume 60, on va faire la lecture. 14 versets, mais tellement important pour voir le contexte de ces paroles. Le titre dans ma Bible, c'est « Prière pour la délivrance du peuple ». Alléluia. Tout à l'heure, Vincent, lors de l'introduction de la Sainte-Cène, a parlé de libération, de délivrance de la part du Seigneur. Et c'est quelque chose que nous voulons vraiment planter dans nos cœurs et dire « Seigneur, tu nous as rendus libres ». Alléluia. Et nous voulons vivre cette liberté dans nos cœurs. Amen. Au chef des chantres sur le lys lyrique, Mictam de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre à Aram, Naharim et à Aram Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Et répare ces brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bienfaits soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, « Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Et ce psaume se termine de façon magistrale. « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera l'ennemi. » Et le peuple dit « Amen, amen. On atteste, on affirme que ces choses, elles sont véritables, et non seulement on les atteste, mais on veut les vivre. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le contexte de ces paroles, c'est un contexte où le peuple était dans la défaite. Et comme ils étaient dans la défaite, il y a eu un moment difficile, particulier, et le peuple est en train de s'exprimer en disant, Dieu, tu nous as repoussés. Ces paroles peuvent paraître négatives, mais en tout cas, il y a une reconnaissance en disant, tu nous as repoussés. Il nous a dispersés. Il s'est irrité contre nous. Nous voyons ici que c'est un cri du cœur. un cri du cœur va venir après avoir constaté que ben il y a un moment où Dieu va repousser, Dieu va disperser, Dieu est irrité. Non pas que Dieu soit un Dieu méchant, comme on aurait tendance à nous le faire comprendre déjà dans la société, dans le monde. Souvent on dit, certains disent à leurs enfants, si tu n'es pas méchant, si tu n'es pas gentil, alors le bon Dieu va te punir. On l'a entendu ça. Et alors on grandit avec cette image d'un Dieu qui est méchant, qui est lointain, qui ne s'occupe plus de nos affaires et qui attend qu'on fasse un pas de travers pour nous tomber dessus. D'ailleurs, certains même disent, quand il leur arrive des catastrophes, « Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Mais en tout cas, le Dieu qui se révèle dans les cœurs, le Dieu qui s'est révélé à chacun d'entre nous, c'est un Dieu d'amour. Ça, c'est la réalité. Un Dieu de grâce, un Dieu de paix, on l'a chanté. Ces choses-là, il nous les fait expérimenter, même quand on aurait tendance à ce que les éléments extérieurs de nos vies viennent là comme des vents, comme une mer, une épreuve qui est là. Mais dans nos cœurs, le Seigneur dépose de la joie, de la paix. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement merveilleux à vivre. Si il y a eu cette constatation de dire « il nous a repoussés, il nous a dispersés et il s'est irrité de nous, il s'est irrité contre nous », c'est parce qu'en fait, le peuple, c'est lui, ce sont les conséquences du rejet de Dieu. Et si vous lisez la parole, vous allez vous apercevoir qu'il y a une trame de fond qui fait que Dieu veut accorder son amour déjà dès la création, à l'homme, à la femme, et puis à son peuple. Et puis le peuple s'éloigne de Dieu, désobéit, et tombe dans le péché. Et Dieu ne cesse d'amener toujours un secours et une délivrance. Ça, c'est le Dieu qui veut se laisser connaître par son peuple. Le rejet de Dieu et les causes de cela, évidemment, elles sont multiples. Mais en tout cas, il y a celles-ci qui reviennent souvent dans la parole. Désobéissance. Quand Dieu dit une chose et quand l'homme veut faire à sa manière, veut faire comme bon lui semble, et alors là, c'est là où ça va se compliquer. Et j'aimerais vous dire ce matin que quand on tombe dans la désobéissance, une chose est certaine, c'est que Dieu n'est plus avec nous. Il n'est plus dans cette direction. Il nous aime trop, mais en tout cas, il va essayer de nous alerter en disant « mais ce n'est pas le bon chemin que tu empruntes » d'une manière ou d'une autre, une prédication, un don spirituel, une prière d'un frère, d'une sœur. Les moyens sont multiples. Dieu est étonnant, il nous aime, c'est une réalité. Alléluia. Donc, il peut y avoir les causes du rejet du peuple, la désobéissance, l'infidélité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans ce monde où, finalement, la fidélité, c'est quelque chose qui est très rare. Quand je travaillais, non pas que je ne travaille plus, mais dans le milieu professionnel, quand on avait une pause et qu'on discutait avec les collègues qui étaient là, vous savez, dans ces moments-là, on partage certaines choses, on ouvre un peu son cœur. Certains me faisaient part de leur situation. Et quand on discutait, que je leur disais que moi, j'étais fidèle à mon épouse, ils me regardaient avec des gros yeux, comme si j'étais quelqu'un qui est de pas normal. Et c'est là où, en fait, moi, je leur disais, mais en fait, c'est la normalité, ça. Être fidèle. Tout ça pour vous dire que l'infidélité, c'est quelque chose de banal dans ce monde. Aujourd'hui, la fidélité, c'est difficile à trouver. Et donc, le peuple s'est éloigné de Dieu, désobéissance, infidélité, éloignement. Et donc, tout ça fait que Dieu se met en colère. Alors là, ce n'est pas la partie qui est la plus populaire. Parce que dire que Dieu est amour, on est tous d'accord. Expérimenter l'amour de Dieu, on est encore d'accord. Je vous ai parlé de joie, de paix. On est toujours d'accord. La Bible nous dit que Dieu est en colère par rapport à certaines choses aussi. Premièrement, par rapport au péché. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Impossible, trop pur, trop saint. pour pouvoir tolérer le péché. Alors il va y avoir la colère de Dieu, et c'est de là que ces paroles ont été tirées. Il nous a repoussés, il nous a dispersés, et il s'est irrité. Ils ont oublié de dire que finalement c'était la conséquence ou les conséquences de leurs égarements et de leurs péchés. Ça, ils ont oublié de l'omettre. Le rejet par Dieu, donc, c'est le Seigneur, la désobéissance, infidélité, éloignement, égale la colère. L'auteur de ce psaume 60, David, était lui persuadé que le mécontentement de Dieu était la cause de toutes les épreuves subies. Des fois, on cherche une parole, la cause quand tout ne semble pas aller dans la bonne direction. Je vous disais il y a quelques instants que des fois, quand on n'est pas dans la voie du Seigneur, Dieu n'est plus avec nous, pas dans le sens que lui ne voudrait pas venir avec nous, c'est qu'il y a des choses qu'il ne peut pas tolérer. Et même dans certaines situations, c'est Dieu qui nous résiste. Et quand Dieu résiste, il est tellement grand, dites-moi, qui est capable de faire reculer le Seigneur? Personne, personne. En tout cas, une chose est certaine, nous devons nous-mêmes, s'il y a des résistances dans nos vies, à un moment donné, on ne comprend pas certaines choses. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous arrêter, de prendre du temps pour nous retrouver dans un endroit secret et répandre notre cœur devant le Seigneur. Et Dieu, qui est un Dieu de grâce, Dieu va nous parler. C'est une réalité. Je crois encore aujourd'hui qu'en 2024, Dieu parle. Il a parlé. Il parle, il continuera de parler parce que Dieu est Dieu. Un Dieu qui a quand même donné, on le découvre au travers de ce verset, et c'est un rappel. Il dit, il a donné à ceux qui le craignent, quoi? Une bannière. À partir du verset 6, il est dit, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Quand on parle de bannière, on parle d'étendard. On parle donc d'enseigne. Là, ça nous parle un peu plus. Et aujourd'hui, si par exemple j'étais venu avec une enseigne d'une société, d'un groupe super connu, on n'aurait pas eu de difficulté à dire, tiens, ça c'est telle enseigne, c'est tel groupe, parce que ça nous parle. Et là, il est dit, mais il a donné à ceux qui le craignent une bannière. La bannière, donc, c'est également un des noms de Dieu. Parce que Dieu se révèle à son peuple et à chacun d'entre nous de différentes façons et également au travers de ses noms. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, et l'Éternel est ma bannière, c'est Yahvé Nissi, l'Éternel est ma bannière, alléluia. Et quand il est dit que l'Éternel est ma bannière, il y a ici une notion de victoire. Si l'Éternel est ma bannière, alors je ne peux qu'être dans cette victoire qui nous a été promise. Le peuple de Dieu est un peuple victorieux. Ça, c'est la réalité, alléluia. Donc, Jésus est également notre bannière. Jésus est ma bannière, l'étendard. Il est, donc, cette enseigne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout d'abord la victoire sur le péché, alléluia. L'agneau de Dieu sur la croix a couvert le péché de l'humanité. Et donc, par conséquence, mon péché. Ce matin, si nous avons pu, ne serait-ce que lever la tête, lever nos yeux vers le trône de la grâce, c'est parce qu'il y a eu dans le cœur, dans le ministère de notre Seigneur, le ministère donc de la réconciliation. Jésus était sur terre pour nous réconcilier avec le Père. Ce matin, tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur ne rentrent plus en contestation ou en guerre avec Dieu. Nous avons un libre accès, nous dit l'Épître aux Hébreux. au trône de la grâce, alors que personne ne se prive. Des fois, on se prive de cette présence. Cette présence de Dieu, elle est tellement bouleversante, bénissante pour nos vies, et on en a besoin. David, à un moment donné, va s'égarer. Ça nous montre que, quand même, on aurait tendance, nous, à dire, David, un homme, selon, quand même, enfin, je ne sais pas, je réfléchis là, je me dis, mais, un homme qui est appelé un homme selon mon cœur. Il faut qu'il ait quand même certaines qualités. Vous ne trouvez pas? Et pourtant, cet homme, ça nous montre son humanité. Il va faire des choses terribles, des choses horribles. Puis quand il va être découvert, à un moment donné, un cri dans son cœur va rejaillir. « Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ta présence. » Quand on a goûté à la présence de Dieu, on ne peut pas s'en passer. On la recherche de tout notre cœur. Et celui qui nous fait rentrer dans cette présence, c'est Jésus par son sacrifice à la croix. Tout à l'heure, en prenant le pain et le vin, nous nous sommes rappelés de cela. Nous nous sommes rappelés que le sacrifice a été agréé par Dieu. Et désormais, Jésus fait le lien, il fait le pont, et on peut rentrer dans la présence de Dieu. Vous vous rendez compte que je découvre dans l'Ancien Testament que ce n'était pas n'importe qui rentrait dans la présence de Dieu. Il fallait un revêtement spécial, ministère, service spécial. Et nous, le peuple de la grâce, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons rentrer dans sa présence. Alors, nous devons, comme le dit donc l'Épître aux Hébreux, surtout ne pas nous en priver. Y venir à chaque fois que l'on peut. Au maximum, nous voulons venir dans la présence de Dieu. Elle se manifeste de différentes des façons. Alléluia. Donc, oui, Jésus est notre bannière. Il est notre victoire parce que sa victoire, elle a été tout d'abord sur le péché. Jésus a remporté la victoire également sur Satan. Alléluia. N'oublions jamais que Satan est une créature, un être créé. Je le disais la semaine dernière à quelqu'un qui le découvrait. Et ah bon? On aurait tendance à mettre Satan à l'égal de Dieu. Satan, un être créé. Et Jésus a remporté la victoire. Mais avant de remporter la victoire, des fois je me dis, quand on y réfléchit, on se dit, mais quand même, quel culot et quelle toupée, quand il va tenter Jésus, il savait très bien qui il était. Il va quand même essayer de le tenter, en lui proposant ce qu'il peut nous proposer, à chacun d'entre nous. Comment Jésus va répondre? Il va dire, il est écrit. Il va répondre par la parole, trois fois, et trois fois il va répondre par la parole. Là où, en fait, on voit que Satan, il n'y a rien de nouveau chez lui, c'est qu'il agit toujours de la même manière. Il a tenté Jésus, il va essayer de nous tenter, à chacun d'entre nous. Déjà, en essayant de nous mettre le doute dans notre cœur. Vous vous rappelez, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est là où tout a commencé. Ève a saisi cette parole. Elle a entrouvert la porte de son cœur. Une petite parole de rien du tout. Le doute s'est installé dans son cœur avec les conséquences que l'on sait. Et donc, les conséquences sont là parmi nous. Donc, la victoire sur Satan, tentation, dessein, les manigances de Satan, avec pour conséquence la mort spirituelle. C'est pour ça que quand le Seigneur, donc de différentes manières, ça c'est quelque chose qui m'émerveille souvent, tout le temps, c'est quand quelqu'un me raconte comment il a rencontré le Seigneur. Moi, ça touche mon cœur parce que le Seigneur, il emploie des moyens que seul lui est capable de faire, et ça c'est merveilleux. La Bible nous dit que quand on découvre cette vie, en fait, il nous ressuscite. Il nous ressuscite à la vie. Et nous étions morts, nous dit l'épître de Paul aux Éphésiens. mais il nous a ramenés à la vie. Et le peuple de Dieu, c'est pour ça qu'il y a de la joie, c'est pour ça qu'il y a de la vie dans nos rassemblements, parce que nous étions morts et désormais nous sommes vivants. Alléluia. Et ce monde a besoin que le peuple de Dieu véhicule cela en disant, mais j'étais mort et désormais je suis vivant. Pas par mes propres mérites ou mes propres forces, c'est parce qu'à un moment donné, le Seigneur m'a proposé la vie. Et c'est ce que fait le Seigneur, et c'est un témoignage qui est à la portée de chacun d'entre nous. Un enfant, ce matin, peut le comprendre, le réaliser et le vivre. Ça, c'est le message de l'Évangile, dans sa simplicité, dans sa pureté. Dieu nous aime et il a vaincu, donc, Satan, les tentations, les desseins, les manigances, et la mort. Et là où il a vaincu Satan, c'est à la croix du calvaire. Parce qu'il pensait avoir remporté la victoire sur Jésus. Mais la mort n'a pu le retenir. Il est ressuscité, amen. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il est au milieu de nous, amen, par son esprit, alléluia. Ça c'est extraordinaire quand on le vit. On ne peut pas rester dans une réunion où on parle de Jésus. On dit des choses sur Jésus sans que ça vienne percuter mon cœur, sans que ça vienne me rappeler qui j'étais avant de le connaître. Et qui j'étais avant de le connaître, ce n'était pas glorieux. La seule chose que je veux me glorifier là actuellement, c'est d'être un enfant de Dieu. Amen. Et nous sommes, chacun d'entre nous, nous tous qui avons donné notre vie au Seigneur, des fils et des filles du roi. Il y a du sang noble dans nos veines. C'est la réalité. On n'est pas n'importe qui. Et Pierre, dans son épître, il va le dire, mais nous, nous sommes une race élue, un peuple élu, une nation sainte. On n'est pas n'importe qui. Souvent, on aurait tendance à se flageller. Seigneur, je ne suis rien, je ne suis rien. Alors, évidemment, il y a une part de vérité. Hein, sans le Seigneur, on n'est rien du tout. Mais quand même, une fois qu'il nous a sauvés, on ne peut plus dire que je ne suis rien. Parce que s'il y avait eu que nous sur cette terre, Dieu aurait donné son Fils, aller mourir sur la croix, pour moi, pour vous, pour toi. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Alors, merci Seigneur pour la victoire sur Satan. Et puis, il a vaincu le monde. Trois adversaires. Jésus a vaincu le péché, Satan et le monde. 1 Jean, chapitre 5, versets 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a des frères et sœurs qui croient que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Évidemment que oui. Hein. Nous le croyons, pourquoi? Parce que nous l'avons expérimenté. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de le dire. Aujourd'hui, on veut essayer de nous faire comprendre que Jésus est peut-être un prophète, quelqu'un qui faisait du bien. Et tant que ça reste là, on n'aura pas de soucis particuliers. Si vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, vous allez voir que ça va commencer à se raidir. Parce que pour celui qui n'est pas éclairé, c'est inconcevable. Déjà, on réfléchit un peu à l'envers, hein, pensant que voilà, Dieu ait pu avoir des relations pour avoir un fils. Déjà, c'est un peu... Mais il faut une révélation spirituelle, une révélation qui nous vient d'en haut. Alléluia. Et ces deux versets nous le disent. Hein. Donc, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et celui qui triomphe, donc, c'est par notre foi. Et celui qui triomphe, c'est le Fils de Dieu. Amen. Et non seulement, donc, nous sommes donc, auprès de celui qui a remporté ces victoires-là, mais la Bible nous dit que nous sommes des plus que vainqueurs. Alors quand j'ai découvert ça, moi je me suis dit, vainqueur, je sais ce que c'est. Mais plus que vainqueur, est-ce qu'on y a déjà réfléchi? Alors certains, oui. Hein. Des plus que vainqueurs, c'est quoi? Alors on le retrouve dans Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses... Si un jour, vous avez des doutes, un moment, ça nous arrivera tous. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais c'est le lot de la vie, c'est comme ça. Il y a des moments difficiles, des moments de creux, Relisez Romains 8. Hein, où, notamment, il va dire, il y a des vérités, c'est un monument. Hein, donc, Romains chapitre 8. Et donc, il va dire ici au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Au travers de ce verset, déjà, je découvre que je suis aimé par quelqu'un. Et je suis aimé, donc, par le Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes des plus que vainqueurs. Pourquoi plus que vainqueurs? Parce que, quand on est plus que vainqueurs, c'est que nous sommes au bénéfice d'une victoire que je n'ai pas combattue. C'est ça, être plus que vainqueur. C'est-à-dire que la victoire, elle est déjà acquise. Est-ce que vous savez qu'il y a des victoires dans votre vie qui ont déjà été acquises à la croix du calvaire? Elles ont été remportées. Il s'agit, nous-mêmes, de pouvoir le réaliser, dire « Mais je suis un vainqueur, je ne veux pas vivre comme un esclave ici-bas. » Donc, c'est dans la même lignée, dans cette liberté. Le Seigneur m'a libéré, alléluia, je ne veux pas vivre comme un esclave. Je suis quelqu'un qui a remporté la victoire. Quelle est la différence entre une victoire et un triomphe? Parce qu'on a vu qu'il y a eu également, donc il est parlé de victoire, mais également de triomphe. La victoire, c'est le succès remporté suite à un combat. Il y a eu un combat, suite à ce combat, on remporte la victoire. Mais un triomphe, c'est la victoire éclatante, absolue et définitive. Alléluia, c'est ça. Et donc je triomphe par Jésus-Christ. Amen, que son nom soit béni. Quand on parle qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, il y a eu dans la Bible des exploits retentissants, des exploits spectaculaires. Quand je pense à Abraham, il va recevoir à un moment donné, alors les circonstances, elles ne sont pas dites dans la parole. On ne sait pas comment ça s'est passé précisément. Peut-être, un matin, comme on a l'habitude, nous, de faire, on se lève et on prie le Seigneur. Et puis, à un moment donné, une parole particulière voilà, a résonné dans son cœur en disant « Quitte ce pays, ta patrie, ton peuple, et va-t'en. » Alors nous, quand on a lu l'histoire, des fois ça force un peu, mais quand on y réfléchit, tout laisser pour obéir à la parole de Dieu, il va le faire. C'est pour ça qu'il a été appelé, le père de la foi. Il va y avoir un appel dans sa vie, sa spontanéité à répondre à l'appel. Des fois, nous, il nous faut de confirmation, un peu comme à la Gédéon, hein. Les toisons, Seigneur la rosée, puis je ne suis pas certain que ça vienne de Dieu, parle-moi encore, Seigneur, et encore, qui est de la spontanéité dans notre cœur. Mais pour reconnaître qu'une parole vient de Dieu, il faut avoir cette relation étroite avec lui. Aujourd'hui, avec mon épouse Henriette, si elle est dans notre pièce, et qu'elle m'appelle, j'entends sa voix, je la reconnais. Et c'est également avec le Seigneur, c'est comme ça, parce que le Seigneur parle. Et quand il y a la voix de Dieu qui parle dans notre cœur, on sait la reconnaître. Pourquoi? Parce qu'on a une relation d'amour avec lui, alléluia, et on reconnaît sa voix, et il n'y a plus de place au doute. Il faut qu'il y ait de la spontanéité quand le Seigneur nous parle. Il sait reconnaître également ses faiblesses. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à David, un homme remarquable. Et le père, lui aussi, il est appelé le père de la foi, quand même, il faut le porter. Hein. Le père de la foi, pourtant, il y a certaines situations, il dit qu'il va s'éloigner à cause de la famine. À l'état de famine, c'est terrible. Hein. Et c'est là où la nature humaine va reprendre le dessus. À cause de la famine, il va aller se réfugier en Égypte. Dieu ne lui avait pas dit d'aller en Égypte. Et quand il va aller en Égypte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à mentir, mais pas beaucoup. Une demi-vérité ou un demi-mensonge. Mais devant Dieu, est-ce qu'il y a une demi-vérité ou un demi-mensonge? Ce n'est pas finalement un mensonge tout entier. Eh oui, hein.
C'est
ce qui s'est passé. Puis bon, il va revenir, on passe les détails. Et puis Dieu va lui faire cette promesse encore une fois. Il va réactiver dans son cœur la foi, parce que je suis sûr que quand il est revenu, il ne doit pas être fier. Un peu comme nous, quand on n'a pas été à la hauteur, quand le Seigneur nous a demandé quelque chose et qu'on n'a pas obéi au premier coup, et quand le Seigneur nous parle encore et encore, alors quand on réalise certaines choses et quand on revient vers le Seigneur, alors on n'est pas fier. Mais le Seigneur, vous le remarquerez, hein, il ne nous attend pas avec un bâton. Jamais. Par contre, on doit se souvenir de nos erreurs afin de ne pas les reproduire. C'est ça, en fait, la marche chrétienne. Ce n'est pas quelqu'un, il a la révélation de Christ, il comprend qu'il est pécheur, il donne sa vie au Seigneur Jésus, il passe par les eaux du baptême, il s'engage, et après sa progression, elle est comme ça. Si on vous dit ça, ce n'est pas vrai. Hein. D'ailleurs, vous le savez. Hein. C'est ça. Mais au final, c'est là où j'avance. C'est là où je progresse. Et c'est là où je réalise. Et on dit, merci Seigneur pour les épreuves de la vie. C'est difficile à dire avant l'épreuve, hein, ou pendant. On dit merci Seigneur pour les épreuves de la vie quand on sort de l'épreuve. Parce que quand on sort de l'épreuve, on a découvert une facette de Dieu qu'on ne connaissait pas. Quelqu'un est d'accord avec moi? Évidemment. Et c'est après qu'on dit, Seigneur, merci pour les épreuves. Parce que avec cette épreuve, tu t'en es servi pour me faire découvrir quel Dieu merveilleux tu es. On l'a chanté également. Alors, Abraham, quand il va revenir, le Seigneur va lui faire cette promesse. Genèse 21, verset 2. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu lui fait cette promesse. Abraham, je vais te bénir. Tu seras une source de bénédiction. Il faut le porter ça aussi. Hein. Si Dieu nous dit, voilà, toi, tu vas être une source de bénédiction. Il va falloir qu'on combatte contre l'orgueil. Hein. Parce qu'on aurait tendance, nous, à de suite aller voir un magasin, hein, justement, où il y a des enseignes, la mettre autour du cou, et se dire, mais moi, j'ai une promesse de Dieu. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut fonctionner avec chacun d'entre nous. Alors, il a cette promesse qu'il serait une source de bénédiction. Et puis, la promesse, elle tarde. Et quand la promesse, elle tarde, que fait l'être humain? Il essaie de donner un coup de main à Dieu. Là, c'est ce qui s'est passé. Hein, avec la servante, avec les conséquences, hein, encore jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de donner un coup de main à Dieu. Et puis, Genèse 21, verset 2, il dit, Sarah devint enceinte. Alors déjà, nous, on le lit, un miracle. Ça, c'est un miracle. À l'âge qu'elle avait. Alors, avec tout le respect que je vous dois, ne serait-ce déjà pour susciter le désir. Des fois, c'est des petits détails comme ça. Hein. Elle devint enceinte. Et puis, il y a le physique qui est là. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Et j'aime beaucoup, je l'ai souligné, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, voilà, je vais te bénir, il y aura une descendance qui va venir de ta part. Et là, le Seigneur lui rappelle, au temps fixé. Dans le livre d'Habacuc, au chapitre 2, il dit, j'étais à mon poste, et je regardais pour voir, en fait, il voulait se plaindre, en fait. Mais alors, c'est sûr, je pense qu'il devait être un peu Habacuc, un peu français. Hein. Parce qu'il était là, il voulait se plaindre, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et puis quand même, il va dire, ben, moi j'étais à mon poste. Et je regardais pour voir comment le Seigneur il allait agir. Puis le Seigneur va venir avec une promesse, il va dire, ben, voilà, je t'ai fait une promesse. Si la promesse tarde, attends-la. La suite est également importante. La suite nous dit, donc, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Il va même lui conseiller, écoute-moi, tu vas la graver. Vous le lirez, hein, Habacuc 2. Vous savez, le livre qui est, on a de la difficulté à trouver, hein, dans nos Bibles. On est tous d'accord? Eh oui. Et donc, Habacuc 2, cette promesse qui est là, il lui dit, mais grave-la. Tu l'aggraves. Pourquoi? Pas pour Dieu, pas pour, ne serait-ce que pour la rappeler à Dieu. On peut dire, Seigneur, tu m'as fait cette promesse, mais pour lui, pour s'en rappeler, pour la lire et dire, mais Dieu m'a fait une promesse. Et si Dieu m'a fait une promesse, Dieu n'est pas un homme pour revenir sur sa promesse. Il l'accomplira, sûrement, certainement, il l'accomplira. Mon frère, ma sœur, vous qui êtes là ce matin, si vous avez reçu une promesse qu'elle ne s'est pas encore accomplie, attendez-la. Elle est en chemin. Alléluia. Alors là, j'aurais espéré un peu plus d'amen, mais bon, on va se contenter de ça. Hein. Ça va. Je l'avais noté ici, en fait. Au temps fixé de Dieu, pour dire l'histoire d'Abraham, on pourrait le résumer comme ça. Au temps fixé de Dieu, Dieu le fera. Au temps fixé de Dieu, Dieu le fera dans votre vie. Amen. Des exploits retentissants également dans la vie de Moïse. Moïse, lui, le Seigneur l'appelle. Et vous remarquerez avec moi que quand il l'appelle, il n'est pas au summum, il n'est pas au pic là, de sa forme spirituelle. Il part, il fuit d'Égypte. Et c'est sûr, alors la Bible ne le dit pas encore une fois, mais on peut l'imaginer, qu'il était plein de doutes. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a pu arriver? Je me retrouve là, dans le désert. Puis à un moment donné, il va y avoir quelque chose d'inhabituel. Essayons de voir les choses inhabituelles que le Seigneur veut pour nous alerter. Là, pour lui, ça va être un buisson ardent. Dans le désert, bon, ça arrivait, hein, tellement, voilà, il fait tellement chaud, température élevée. Mais celui-là, il avait une particularité, c'est qu'il ne se consumait pas. Alors il va se détourner pour voir pourquoi sa curiosité. Des fois, la curiosité, on dit que c'est un vilain défaut, mais des fois, il y a des bonnes curiosités. Et lui est donc attiré. Puis là, il va y avoir cette rencontre extraordinaire. À chaque fois que je lis ce passage, je suis bouleversé, hein, un Dieu qui se révèle. Il dit, mais Moïse, tout d'abord, ôte tes chaussures. Quelqu'un a réfléchi déjà pourquoi ôter ses chaussures? Parce que dans la sphère de la présence de Dieu, tout ce qui touche la terre ne peut pas rentrer dans sa présence. Il dit, mais ôte tes chaussures, tout ce qui est de la terre, et viens dans ma présence. Et là, il y a un dialogue extraordinaire, hein, un appel. Il refuse. En général, c'est comme ça. Hein. Quand l'appel est trop grand pour nous, on dit, Seigneur, mais non, je ne suis pas à la hauteur. J'aimerais vous dire que le Seigneur nous attendra toujours là, à ce que nous disions, mais je ne suis pas à la hauteur. Parce que quelqu'un qui se croit capable d'accomplir les œuvres de Dieu, mais il y aura de la difficulté parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Mais quand on reconnaît qu'on ne peut pas, alors on va demander à ce que le Seigneur nous aide. Puis le Seigneur va venir, mais tu seras un libérateur, là encore une fois. Je veux me servir de toi, tu vas aller en Égypte. Seigneur dit, Moïse, il me semble, on parle un peu à sa place ce matin, hein, dire, Seigneur, où tu veux, sauf en Égypte. C'était ça en fait, il venait de fuir l'Égypte. Le Seigneur le ramène pour confronter déjà son passé. Et donc là, il vient avec un message, son message ne passe pas, il insiste parce qu'il a un message du Seigneur. Des choses étonnantes, hein, se passent. Avec les 10 plaies, tout ça. Et puis, le cœur de Pharaon est touché. Puis il laisse aller le peuple. Après, voilà, des choses voilà, qui se sont passées. Et puis, le peuple, après 430 ans d'esclavage, ils sont libres. Eux, ils se levaient le matin, ils obéissaient à leur maître pour la construction. Voilà, c'était leur quotidien. Du jour au lendemain, libre. Alors j'ai envie de le dire comme ça. Hein. Tu m'étonnes que quand ils sont partis, ils étaient contents, ils chantaient, les tambourins, ça y est, on est libérés. Alors, de l'espoir, le Seigneur va nous donner un pays, l'imagination de l'être humain, hein, on a tous de l'imagination. L'imagination, là, ça va être merveilleux, un pays où coule le lait et le miel. C'est le Seigneur qui a fait la promesse. Et là, ils se retrouvent face à une mer. Qui les a amenés en face la mer? Mais c'est Dieu. Le Seigneur nous amènera toujours face à nos impossibilités, à nos incapacités. Il n'y a pas un homme qui est capable d'ouvrir une mer en deux. Et puis, on le lit aussi dans l'histoire, hein. Les Égyptiens reviennent un peu à eux, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait partir de la main-d'œuvre pas chère. Mais ils reviennent donc sur la décision, et ils reviennent pour les exterminer, ils ne viennent pas pour leur dire, bon allez, rentrez, on s'est trompé. Là encore une fois, vous le lirez à la maison, c'est extraordinaire. Il nous est dit que dans la nuit, Dieu va dévisser les roues des chars des Égyptiens. C'est marqué dans la parole de Dieu. On sera d'accord, hein, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un char sans roues, ça roule au moins bien. Parce que quand on est dans la volonté de Dieu, face à nos incapacités, qu'on le reconnaît, c'est là où le Seigneur agit et il agira toujours. Amen, on l'a expérimenté nous-mêmes. Et c'est là où le Seigneur va intervenir de façon merveilleuse. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Peut-être qu'ils l'ont chanté aussi, hein, en partant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Face à la mer, Seigneur, si tu as un exploit à faire, c'est maintenant. Hein. Puis le Seigneur, il va donner l'autorité, hein, la puissance à Moïse. Donc, ils vont passer. Et là, on s'aperçoit l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Un petit détail tellement important, c'est qu'il a fait passer le peuple sur une voie qui était asséchée. Miracle plus. C'est ça. Pour pas que le peuple ait à se fatiguer. Ça, c'est l'amour de Dieu. Les petits détails que le Seigneur donc acquiert pour chacun d'entre nous, ça nous montre que devant la mer, le résumé, on a vu par rapport à Abraham, au temps fixé, Dieu le fera. Là, on s'aperçoit que, Exode 14:14, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, il est dit à cette parole, gardez le silence. Ah, c'est dur, hein. La valeur du silence. Souvent, on trouve dans la Bible de faire silence, de faire taire. Déjà, ma propre voix, mes propres doutes, pour écouter, faire silence pour écouter la voix de Dieu. Faire silence pour que la confiance, la foi, l'assurance puissent renaître dans ma vie. Sachons écouter la voix de Dieu. Ça, c'est tellement important. Donc, Moïse devant la mer et le peuple, donc ils vont garder le silence. Et au verset 31 d'Exode 14, il dit « Israël vit de ses propres yeux la même puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. » Des fois, là aussi, un petit détail, parce que nous, on pense que le peuple connaissait Dieu. 430 ans d'esclavage. Il y a eu le temps un peu de, peut-être quelques-uns par transmission. Mais là, il est dit que c'est par un moyen extraordinaire, en faisant un exploit extraordinaire, que le Seigneur s'est révélé à eux. Et là, Israël, il vit. Et la suite, et il crut. Nous voulons voir Jésus se lever pour opérer encore des miracles, des prodiges. Des fois, dans nos têtes, on aurait tendance à sectionner un peu la parole de Dieu en se disant, ben, il y a un Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu du Nouveau Testament, puis un Dieu d'aujourd'hui. Ou des fois, on se dit, mais Dieu n'est pas le même. J'aimerais vous dire que ça, c'est un mensonge. Dieu reste le même. celui qui est capable d'ouvrir une mer en deux. Il y a encore d'autres exemples. Mais j'aimerais vous dire, celui qui est capable de ressusciter des morts, c'est notre Dieu. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Le secours vient de l'Éternel, et j'ai envie de dire, le secours, une parole d'encouragement, viendra de l'Éternel. Le mot qui est important, évidemment, dans toute la phrase, avec Dieu nous ferons des exploits, c'est avec. C'est avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Le secours vient de l'Éternel. Psaume 121, verset 1, on le connaît. Hein. Je lève mes yeux, où ça? Vers les montagnes, d'où viendra le secours? Des fois, même quand on le partage ou quand on le lit, on a tendance à ce que ce soit un point d'exclamation. C'est un point d'interrogation qu'il y a. Des questionnements. Mais d'où me viendra le secours? Il y a une autre version qui dit, qui pourra me secourir? La suite dit, le secours me vient de l'Éternel. Pas n'importe qui a fait les cieux et la terre. Dites-moi, il en faut de la puissance pour créer les cieux et la terre. Il en faut de la puissance. Tout ça pour dire que le Dieu qui a créé au son de sa voix la terre et les cieux, il est là pour toi. Il est là pour chacun d'entre nous. Alors oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourquoi? Parce que souvent dans nos vies, on a besoin d'être encouragé. Si on a besoin d'être encouragé, c'est parce que nous tombons souvent dans le découragement. Et quand on est découragé, souvent, ce qui va arriver, c'est de se dire, mais finalement, je ne suis pas à la hauteur. De se flageller, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai jamais. Le découragement, c'est arrivé à des hommes de Dieu. Un homme comme Élie, on pense à Élie, un homme de prière, de combat, de lutte, il va demander la mort. Il va se retrouver à un moment donné. Pourquoi? Il a reçu une mauvaise nouvelle dans un moment vulnérable de sa vie. Et des moments de vulnérabilité, on en traverse dans nos vies. Et c'est là justement où il faut être vigilant. Le secours viendra de l'Éternel. Pour vaincre le découragement, trois choses à faire. Tout d'abord, obéir à Dieu. Décider de regarder uniquement à Dieu. Tant que Pierre a regardé à Jésus, il a marché sur l'eau. Vous vous rendez compte? Le seul homme que cette terre ait porté, qui a marché sur l'eau. Ça va être une drôle de sensation. Et tant qu'il regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Qu'est-ce que cela nous montre? Tant qu'on regarde au Seigneur, alors on ne craint rien. On pourra faire des exploits. Alléluia. Et il sera avec nous. Donc, pour vaincre le découragement, obéir à Dieu, décider de regarder uniquement à Dieu. Et troisième, ouvrir son cœur et demander de l'aide. Seigneur, au secours. Tout d'abord, nous, personnellement, Seigneur, viens à mon secours. Et des fois, il y aura des situations où on aura besoin d'un frère, d'une sœur, de confiance. C'est pour ça que je vous disais que la communion fraternelle, c'est tellement important. De pouvoir également partager nos peines, nos fardeaux, nos joies, il y en a, des choses qui nous accablent. Et c'est pour cela que le Seigneur nous unit ensemble pour que nous formions son peuple. À lui sort toute la gloire. Je conclue avec un verset pour nous encourager. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je pense que celui-là, dans votre Bible, certains l'ont sûrement surligné. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est le devoir que vous avez cette semaine, c'est de pouvoir le surligner, d'y réfléchir et de vivre cela. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, pas au-delà, mais infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, on en demande des choses au Seigneur, et même ce que nous pensons. Dieu est capable de faire au-delà, par-dessus. Alors gardons confiance et dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Et j'aimerais donc justement terminer avec, tout à l'heure j'avais, j'étais sur ma chaise, une pensée, peut-être que ça va s'adresser à quelqu'un. Vous savez, les dons spirituels, on peut les exercer de différentes manières. Et donc il y avait cette pensée, justement, qui allait dans le sens de la prédication. Peut-être que tu étais sur le chemin pour faire des exploits avec Dieu. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est arrêté sur ce chemin. Et tu as besoin de retrouver la foi avec un Dieu tout-puissant. Tous ces exemples, que j'en ai pris deux, on aurait pu en prendre encore plusieurs. Mais le Seigneur est celui qui veut nous faire repartir. Regardez à lui pour dire, oui, l'exploit est possible avec Dieu. Amen. Il est celui qui ne nous laissera pas. Il sera avec nous, il nous en a fait la promesse, même s'il y a des temps qu'on peut traverser qui sont difficiles, mais ça c'est le lot de la vie de chacun d'entre nous. Mais repartir encore plus fort avec le Seigneur, ce qui peut nous faire arrêter dans cette vision, peut-être une tristesse profonde dans notre cœur, quelque chose qu'on n'arrive pas à se défaire, tristesse qui nous envahit. Dieu est le Dieu de la joie. Alléluia, déjà par rapport au salut. Les épreuves, ou des fois, c'est parce qu'on a posé nos regards ailleurs. Que ce matin, nous puissions nous refocaliser dans la direction du Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ben, le secours viendra de l'Éternel. Et oui, je le déclare, et on peut le déclarer ensemble ce matin. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour. Merci pour ta parole qui est bonne. Seigneur, cette parole, elle vient nous encourager ce matin. Merci parce que tu l'as déposée dans mon cœur, Seigneur, et dans la préparation de ces moments. Seigneur, mon Dieu, je reste persuadé que tu voulais nous parler. Tu nous as parlé. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, Seigneur, mon Dieu. Mais nous voulons repasser dans nos cœurs, vivre ces choses, Seigneur, et repartir de ce lieu rempli de confiance en se disant, oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur mon Dieu, cette église, Seigneur, que nous formons ici, Seigneur, elle fera des exploits en ton nom, alléluia, parce que c'est toi qui es à la tête. Nous marchons à ta suite, Seigneur mon Dieu, et nous comptons sur ta grâce. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.